Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Afrin, ville syrienne aux mains de la Turquie après 2 mois d'offensive. Retour sur cette bataille en jeu de cette victoire pour Recep Tayyip Erdogan avec Alexandre Billette à Istanbul. La Russie aux urnes, Poutine faute de mieux, l'opposition dénonce des fraudes et la participation à la mi-journée nous donne une indication sur le niveau de l'abstention. 35% de participation selon les dernières données. Nous retrouverons dans un instant Claude Brouillot à Moscou. Également au sommaire, la feuille de route d'Europe Écologie Les Verts, partie en partance pour un tour de France. David Ravier a sollicité son secrétaire national David Cormand. À la fin de cette édition, la face cachée du globe, signée Nabila Hamel, escale judiciaire en Afrique du Sud et au Pérou. Des habitants terrés dans les caves après des jours et des jours de bombardements intensifs, d'incessants tirs d'artillerie, c'est ce qu'ont découvert les effectifs de l'armée syrienne libre qui ont patrouillé dans le centre d'Afrin. Information livrée par l'une des dirigeantes de l'autorité civile qui gouverne Afrin, Evi Mustafa, à l'agence Reuters en milieu de matinée. Cette ville du nord-ouest de la Syrie n'est donc plus aux mains des unités de protection du peuple, milices kurdes, en première ligne dans le combat qui a été mené contre Daesh. Bonjour Alexandre Billette.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Istanbul. Le 20 janvier était lancée cette offensive sur Afrin. Il est bon que vous nous disiez quelles ont été les forces en présence.
Alors écoutez, vous avez aux côtés des soldats turcs ces forces de l'armée syrienne libre qui sont en réalité constituées par une série de groupuscules qui étaient notamment présents à Alep contre le pouvoir de Bachar el-Assad, qui en ont été délogés et qui ont par la suite été reprise en main, en quelque sorte, par les forces turques. On parle de groupes liés aux frères musulmans, par exemple, ou encore de bataillons turkmènes, donc proches déjà d'Ankara. Il serait quelques milliers au total, peut-être 10 000, aux côtés donc des forces armées turques. Ils ont été soutenus d'abord par l'artillerie et par l'aviation turque, puis ensuite par la troupe au sol. Ils ont lentement, très lentement, village par village, avancé sur la route d'Afrin avant de prendre le contrôle ce matin de la ville, avec le soutien notamment des JEHR. Ce sont les forces spéciales de la gendarmerie turque, des forces qui sont habituées au combat urbain, justement, dans le sud-est de la Turquie, lors des opérations menées depuis 2015 par Ankara contre le PKK.
Alexandre, que représente la prise d'Afrin dans la stratégie de Recep Tayyip Erdogan, le président turc ?
Alors écoutez, c'est selon l'expression du président turc, le premier maillon de la chaîne terroriste, c'est ce qu'il a dit ce matin. Afrin constitue pour le pouvoir turc une première étape, mais Ankara assure depuis le début de cette opération que le but est, je cite, de nettoyer l'ensemble de la zone limitrophe de la frontière turque en Syrie, jusqu'à la frontière irakienne, a même affirmé le président turc à quelques reprises. Mais les choses ne sont pas si simples. La prochaine étape serait la ville de Manbij, elle aussi contrôlée par les forces kurdes, mais en présence de militaires américains. C'est d'ailleurs la principale raison des relations glaciales avec Washington. Pas si simple non plus, puisqu'on le voit, les avancées turques sont très lentes. Pour Afrin, le pouvoir d'Ankara avait parlé d'une opération éclair, mais les forces turques ont mis près de 2 mois pour arriver aujourd'hui jusqu'à Afrin.
Merci à vous, Alexandre Billette à Istanbul. Feyla Kalraman, le principal groupe qui se bat contre le régime syrien dans la route orientale, annonce qu'il négocie avec les Nations Unies un cessez-le-feu. Et plus de 20 000 civils ont pu quitter ce matin la route par la commune d'Amourier. Information relayée par l'agence russe Interfax. Les premières estimations officielles sont donc tombées en Russie. Estimation du taux de participation à une élection présidentielle dont on connaît le vainqueur. Il s'appelle Vladimir Poutine, reconduit d'office au terme d'un troisième mandat, marqué par une politique étrangère offensive, confère entre autres la guerre en Syrie, mandat au cours duquel l'homme fort du Kremlin aura travaillé au culte de sa personnalité. Bonjour Claude Brouillot.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes en direct de Moscou. Claude, premières estimations de la participation, mais pas beaucoup d'éléments de comparaison.
Non, voilà, c'est ça. Et pour la première fois, on a un chiffre donc qui concerne le début d'après-midi, 14h, donc il y a une demi-heure ici, avec 35% de votants dans toute la Russie. Le taux de participation officiel est privé de tout comparatif avec 2012, alors que précédemment, les heures précédentes, nous avions la comparaison avec il y a 6 ans. On sait que dans les régions les plus éloignées, de l'Oural à l'extrême-orient russe, où les bureaux de vote sont déjà fermés, 6000 bureaux de vote ont déjà fermé, la participation serait en hausse de 28% par rapport à 2012. Cette fois, on a bien la comparaison possible. Pour l'instant, donc, tout semble indiquer que les intenses campagnes de communication officielles porteraient leurs fruits. Les bureaux de vote sont installés dans les établissements scolaires, les gymnases, les aéroports même, et jusqu'en haut des pistes de ski à Sotchi. Vladimir Poutine, qui a voté tôt ce matin à l'Académie des sciences, à Moscou, comme à son habitude, a juste indiqué que son score lui importait peu, mais qu'il voulait surtout poursuivre son travail. Les images de son vote tournent en boucle sur toutes les télévisions fédérales. En revanche, aucune trace des 7 autres candidats. De son côté, Alexei Navalny, le seul véritable opposant à Vladimir Poutine, qui est interdit, on le sait, de scrutin pour une condamnation qu'il conteste, évoque déjà des fraudes vidéo à l'appui, justement dans l'extrême-orient russe. Enfin, pour terminer, RIA Novosti, une agence et un site d'information proche du pouvoir, annonce que Gérard Depardieu a voté à Paris avec, cite le journaliste de l'agence, une vraie émotion patriotique. Fin de citation.
Et merci à vous. Claude Bruyot, en direct de Moscou. Un gigantesque incendie a ravagé le grand marché de Guinée-Conakry. Des centaines d'échoppes détruites. Les secours sont en train de recenser les victimes. Les pompiers sont encore à pied d'œuvre. Le feu n'est pas encore totalement éteint. Il est 12h37, vous écoutez le journal de France Culture. Quelle participation prêtée à une élection bannie par les élus en lice. Avant-hier, un collectif d'élus de Mayotte demandait un report de la législative partielle en question. Refus de la préfecture qui a maintenu le scrutin malgré un contexte social dégradé et tendu. Sandrine Etoandeg, sans surprise, ce matin, très très peu d'électeurs ont fait le déplacement.
À midi, heure locale, à Mamoudzou, la participation sur la commune était d'un peu plus de 12%. Les électeurs arrivent au compte-gouttes entre deux averses de pluie dans les bureaux de vote. C'est le cas de Faïssa. Elle est gréviste, mais elle a choisi de ne pas suivre la consigne de l'intersyndicale et des différents collectifs de boycotter ce scrutin.
J'ai choisi aujourd'hui de voter parce que pour moi, il est important qu'il y ait une force vive en métropole au niveau du gouvernement pour revendiquer nos choix au lieu de saboter les élections et de priver un élu d'être là-bas pour nous défendre. Je pense qu'il est important aujourd'hui que je sois là et que j'exerce mon droit de citoyen en tant que droit civil.
Des promesses auxquelles Nassir ne croit plus, lui a choisi de ne pas voter.
Vu le contexte en ce moment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se sent concerné par ce vote. Ça ne m'intéresse plus parce que c'est que du blabla pour moi.
Côté sécurité, pas d'incident notable ou de débordement à signaler. Juste dans le nord-ouest à Akwa, ce matin, les gendarmes ont dû décanasser deux bureaux de vote.
Sandrine Etoandeg et Laurent Macchietti à Mayotte. Europe Écologie Les Verts boucle aujourd'hui à Paris des Assises, ces Assises de l'écologie et des solidarités. Pendant près de 6 mois, le parti va sillonner la France pour aller à la rencontre de ses militants et travailler son projet d'écologie politique et, comme même a le souligné David Cormand, son secrétaire national, aiguiser des consciences au-delà des chapelles.
Mon souci, en réalité, c'est pas l'avenir d'Europe Écologie Les Verts. Mon souci, c'est comment on prend nos responsabilités collectivement pour faire gagner l'écologie suffisamment tôt pour éviter l'effondrement qu'on est déjà en train de commencer un peu à connaître. Plutôt que de réfléchir chacun dans nos coins, on réfléchit ensemble. Pour moi, un parti, ce n'est pas une caserne. Moi, je n'ai pas de patriotisme de parti. Ce qui me préoccupe, c'est la cause qui est la nôtre, c'est celle de l'écologie. Quand on dit que tout le monde fait de l'écologie, je ne crois pas. Je pense que tout le monde a compris qu'il y avait un enjeu écolo. Mais regardez le parti du président de la République qui prétend faire de l'écologie. Il continue à vendre des réacteurs nucléaires en Inde. Il continue à vouloir détruire le transport ferroviaire et privilégier la route. Il continue à promouvoir les grandes entreprises, l'économie de la finance, plutôt qu'une économie plus locale. Donc vous voyez qu'il y a des contradictions entre le fait d'avoir une prise de conscience écolo et de la mettre en action. Nous, on prend l'initiative de proposer ce travail de réflexion collectif. Où ça nous mènera, on le verra bien. Puisqu'on est dans une démarche participative, c'est pas nous qui décidons de tout, et c'est heureux. Donc voilà, on dit on a une histoire, on a une compétence, une connaissance des enjeux écolo. On a, je pense, une utilité, y compris dans notre présence sur les différentes luttes qui existent, dans les différentes initiatives qui existent, dans les institutions. Nous, ce que nous avons construit, on le met encore une fois au pot commun, après à chacune ou à chacun de s'en saisir ou pas.
David Cormand, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, propos recueillis par David Ravier. Énième œillade de Benoît Hamon à Jean-Luc Mélenchon, l'ex-socialiste et fondateur du mouvement Génération appelle le leader de la France insoumise à abandonner sa stratégie solitaire pour défendre le service public. Il est un peu plus de 12h40 sur France Culture, c'est l'heure de la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. Les Philippines viennent de notifier officiellement à l'ONU leur retrait de la CPI. Une réaction à l'enquête préliminaire ouverte le 8 février par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. La plainte, déposée par un avocat philippin, vise le président Duterte et des membres de son administration pour la guerre sanglante qu'ils mènent contre les trafiquants de drogue. Y a-t-il des négociations secrètes entre l'Arabie saoudite et le mouvement chiite yéménite Houthi pour mettre fin à la guerre au Yémen? Selon deux responsables yéménites et des diplomates qui ont requis l'anonymat, ces discussions auraient été entamées il y a 2 mois sous l'égide du sultanat d'Oman, mais aucune des deux parties ne confirme officiellement ces pourparlers. Robert Mugabe soutient mordicus qu'il a été victime d'un coup d'État. L'homme qui a dirigé le Zimbabwe pendant 37 ans d'une main de fer est sorti de son silence pour une interview à une télévision sud-africaine. Pour toute réponse, son successeur Emmerson Mnangagwa affirme que le pays a tourné la page et se concentre sur la préparation de futures élections libres, honnêtes et crédibles cette année, que l'ancien président a le droit de s'exprimer librement comme n'importe quel citoyen, et il rappellera au passage que son gouvernement continue à lui verser ses allocations. Un mois après la démission du président sud-africain Jacob Zuma, le parquet général de Pretoria relance des poursuites pour corruption présumée dans des contrats d'armement signés avec plusieurs partenaires européens, dont la société française Thales. C'est, Lisa Fabian, le dernier rebondissement d'une saga judiciaire débutée il y a une dizaine d'années, alors que Jacob Zuma n'avait pas encore accédé aux fonctions suprêmes.
Après des années d'impunité presque totale, la justice semble sur le point de rattraper l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Le procureur général a indiqué ce vendredi qu'il y a des perspectives raisonnables d'envisager des poursuites judiciaires contre lui. Un feu vert pour la justice qui pourrait se pencher bientôt sur 16 charges de corruption contre l'ancien président. Elle porte sur 783 paiements irréguliers dans l'affaire dite de l'Arme Deal. Un dossier ancien au cœur d'une bataille judiciaire de longue haleine. En avril 2016, la justice sud-africaine avait déjà estimé que la décision du parquet d'abandonner les poursuites contre l'ancien président en 2009 était irrationnelle. En octobre dernier, la demande d'appel de Jacob Zuma a échoué. Désormais, le parquet estime qu'un tribunal devrait être l'endroit le plus approprié pour clarifier toute cette affaire. Cela pourrait être le premier procès pour corruption visant Jacob Zuma, dont la présidence a été entachée par les scandales à répétition.
Une autre affaire ébranle le Pérou cette fois, les liens qu'aurait eu le président Kuczynski et des entreprises qui lui sont proches avec le géant du bâtiment brésilien Odebrecht. Les députés péruviens de l'opposition ne le lâchent pas, ils étaient plus nombreux. Éric Sanson a demandé jeudi un nouveau débat au Parlement sur son incapacité morale.
Le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski sera-t-il celui qui recevra Donald Trump à Lima lors du sommet des Amériques les 13 et 14 avril prochains ? Évidente il y a encore quelques jours, la réponse ne l'est plus autant depuis jeudi dernier. Le Congrès péruvien a en effet approuvé que soit examinée une nouvelle demande de destitution contre Pedro Pablo Kuczynski pour incapacité morale due à de supposés liens avec la compagnie brésilienne Odebrecht, accusée de corruption massive dans de nombreux pays du continent. Une première demande avait été rejetée fin 2017 après la défection en surprise de députés fujimoristes ainsi que l'abstention de nombreux députés de gauche. Ce sont ces voix sur lesquelles Kuczynski, a priori, ne peut plus compter. Les partis de gauche péruviens s'étaient en effet sentis trompés par la grâce accordée par Kuczynski le jour de Noël à l'ancien président Alberto Fujimori. La motion demandant l'examen de la destitution de Kuczynski a d'ailleurs été votée par 87 députés contre seulement 30 qui se sont opposés ou abstenus. Le sort du chef de l'État se décidera le jeudi 22 mars prochain, mais les soutiens de Kuczynski se font de plus en plus rares.
Après la Norvège l'an passé, c'est au tour de sa voisine la Finlande d'être officiellement classée pays le plus heureux du monde, selon un rapport de l'ONU présenté mercredi dans la Cité du Vatican. La Finlande monte également sur la première marche du podium pour le bonheur de ses immigrés. Créé par l'ONU en 2012, le World Happiness Report classe 156 pays selon leur niveau de bonheur et 117 pays selon le niveau de bonheur des immigrés. À dimanche prochain.
À dimanche prochain, Nabil Hamel. Les grandes lignes météo de l'après-midi, temps couvert sur l'ensemble du pays, froid sur le nord et l'est avec quelques flocons, limite pluie-neige entre 700 et 1000 mètres selon les massifs. Il fait frisquet d'ailleurs sur estrades, balles et autres bastringues échafaudées. Place de la République à Paris, à l'initiative d'élus parisiens et maires communistes de banlieue pour célébrer la commune et défendre les communes en difficulté budgétaire. Le 18 mars 1871 naissait la Commune de Paris, prise de pouvoir par le peuple de la gestion des affaires publiques. Cette édition a été préparée avec Martin Descloseaux, à la technique Clément Daté.